Et nous sommes donc avec Christian Saint-Étienne, l'économiste Christian Saint-Étienne. Je voulais revenir sur un propos que vous avez venez de tenir et qui faisait référence à ce qu'avait dit Damien Chalamel. Vous dites que les peuples sans racines, sans privatifs, finalement c'est un handicap, c'est ça, hein ?
Bien sûr. Alors là, je ne dis pas que, c'est, ouais. que la France n'a pas de racines, c'est les élites qui n'ont pas de racines. Donc ouais. en fait... avec ces gens qui travaillent sur les prises de décision au niveau des États, progressivement, on a pu distinguer deux types d'élites. Les élites politiques et médiatiques qui orientent la réflexion de la nation et les élites techniques. Si on regarde la France, il y a 2000 personnes qui prennent les grandes décisions. Et derrière, selon l'extension que vous prenez des élites techniques, vous allez de 2 millions à 7 millions de gens très qualifiés qui, dans leur domaine, font tourner le pays. Donc, c'est les médecins, les avocats, les ingénieurs, les enseignants, les chercheurs, mais le plombier qui est plus doué que son voisin, le boulanger qui fait de la création merveilleuse, des architectes qui font des bâtiments, voilà. Donc, il faut bien distinguer les 2000 des 2 millions, voire avec extension, les 7 millions. Et ça, c'est très intéressant. Le même phénomène existe en Allemagne. Hein. Bon, ils sont un peu plus nombreux que nous, donc il y a peut-être 2500 personnes qui prennent les grandes décisions et 2 millions et demi d'élites techniques, si on prend le niveau de 2 millions en France. Et la grande différence, ça c'est observé depuis une trentaine d'années, hein, dans les comparaisons entre la France et l'Allemagne. En Allemagne, les 2000 qui prennent les décisions sont issus des élites techniques. En France, elles sont séparées des élites techniques. Donc, c'est à la fois l'ENA, mais c'est les journalistes de gauche qui, par leur influence, jouent un rôle surdimensionné et avec toutes les émissions sur le service public et ailleurs qui sont très orientées. Mais c'est également le phénomène que j'ai évoqué tout à l'heure, le remplacement des parlementaires par leurs attachés. Or, les attachés ont été formés à Sciences Po, Sciences Po Paris, Sciences Po Grenoble et les autres Sciences Po, donc avec des orientations anti-libérales assez marquées. Donc, il y a eu un basculement général dans ces élites qui non seulement a fait ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire il n'y a plus de réflexion stratégique à moyen terme, mais d'autre part, un basculement à gauche très significatif. Donc, vous avez rappelé tout à l'heure, effectivement, que en France, il y a deux partis de gauche dont un qu'on nomme conventionnellement parti de droite, mais... avec la disparition du gaullisme et avec l'effacement des ingénieurs. Les ingénieurs, il ne faut pas leur laisser la main dans tous les domaines parce qu'ils font aussi des erreurs. Mais par nature, un ingénieur travaille à 3-7 ans. Quand vous construisez un pont, quand vous construisez un immeuble, quand vous construisez une usine, vous ne pouvez pas penser au lendemain seulement.
Bien sûr. Non, mais on pense en vous écoutant, c'est vrai, à la France gaullienne et à ces équipes d'ingénieurs qui inventaient, précisément, voilà. On en a parlé, le Concorde, les centrales nucléaires.
Le TGV.
Le TGV, et qui avait mené un peu le haut du pavé.
Et qui avait réindustrialisé la France après la guerre. Parce qu'ils avaient joué un rôle très important sous la 4e République aussi. Moi, je suis très français, hein, j'adore mon pays.
Très français.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que. je dis ça parce que ce que je vais dire est très désagréable pour les Français. En 1944, nous sommes un pays agricole archaïque et vaincu. Et avec De Gaulle, 30 ans après, nous sommes la 4e puissance du monde. C'est un prestidigitateur insensé, puisqu'il transforme en quelques semaines une puissance vaincue en un pays qui occupe l'Allemagne avec les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, qui obtient un poste de membre permanent du Conseil de sécurité et qui refait de la France une grande puissance politique.
Donc, on parle d'un personnage qui avait une vision de la France.
Voilà,
et qui l'avait depuis longtemps.
Et qui avait des racines extrêmement profondes. Et c'est donc, le peuple français n'a pas perdu ses racines, mais les élites, si. les 2000 en question sont totalement hors sol.
Mais précisément, Jacques Attali, Alain Minc et tous ses amis que vous connaissez bien.
Vous pouvez dire Emmanuel Macron aussi.
Hein. Emmanuel Macron aussi nous explique depuis des décennies qu'il faut...
Même Jacques Chirac qui a refusé de reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe.
Exactement.
Ça commence là, la déracination de...
C'est dû à quoi ? Un manque de formation ?
Franck Herriot.
Alors, c'est une question très difficile. Hein. Je pense que la dérive commence par une double dérive. D'abord, le monde éducatif cesse de vouloir préparer les enfants à l'excellence.
Mitterrand.
Voilà, à partir de Mitterrand, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est plutôt d'accueillir la diversité plutôt que de promouvoir l'excellence. Donc on va bousiller le système éducatif, mais ça se fait sur trois décennies. Hein. Il faut du temps pour bousiller un système. Et ça conduit à, par exemple, ce qu'on sait, c'est que dans les 20 dernières années, on a donné le bac à des gens qui avaient 8 de moyenne à l'examen. On commence un peu à corriger, mais on est très très loin d'avoir corrigé. Ce qui conduit, en tant que professeur des universités, j'ai enseigné dans beaucoup de... J'ai enseigné à Sciences Po Paris, j'ai enseigné à Paris Dauphine, j'ai enseigné à l'Université de Tours, j'ai enseigné au Conservatoire des Arts et Métiers. Je pense que je connais un petit peu l'enseignement supérieur.
Ouais, le monde de l'enseignement.
En fait, je vais vous dire quelque chose aussi.
Le niveau baisse.
C'est qu'il y a un tiers des 10 étudiants qui n'ont rien à faire à ce niveau-là.
Même à ce niveau-là, parce que là, vous avez quand même un peu l'élite.
Oui, mais notamment, je ne veux pas citer les institutions, quand je corrigeais même des copies... Alors, en master à Dauphine, ça allait, mais quand j'ai enseigné en deuxième année d'économie, il y a des copies, j'étais obligé de lire à voix haute pour savoir ce que l'élève voulait dire.
Avait voulu dire.
Et donc, je partageais mon bureau avec une professeure qui était plus âgée que moi et qui elle-même disait qu'il y avait une forte baisse du niveau. Et je pense que là, pour les auditeurs, on peut commencer à évoquer des solutions. D'abord, les solutions, on dispose maintenant de travaux extraordinaires qui ont été faits au Collège de France.
Pour l'université, hein, pour remonter le niveau de l'université.
Pour remonter le niveau de l'université.
Moi,
je commencerai à l'école primaire.
Oui, c'est ça.
Et à l'école primaire, il y a des travaux qui montrent que les enfants qui n'ont pas le niveau de maîtrise de lecture, calcul, écriture à la fin du CE1 sont perdus à jamais. Donc, il faut rétablir des exigences de lecture, écriture, calcul au cours préparatoire et au CE1 et s'assurer que passent en CE2 uniquement les enfants qui savent lire, écrire et compter. Ça semble fou de dire ça, parce que quand on avait l'école de Jules Ferry, c'était inimaginable d'avoir cette situation. Donc, on a totalement bousillé l'école primaire.
Vraiment les fondamentaux, ce qu'on
appelle. Et ensuite, il y a un deuxième niveau où il faut être strict. C'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas aller au collège s'ils ne maîtrisent pas les fondamentaux de l'école primaire. Et donc, il faut pousser très fortement l'apprentissage et la formation pratique. Et moi, je vais très loin là-dessus. Comme les formations pratiques sont toujours considérées comme des voies de garage dans notre pays, comme il faut réindustrialiser le pays, moi, je propose de basculer tous les lycées techniques, toutes les formations techniques, dans un puissant ministère de la réindustrialisation, en mettant beaucoup d'argent là-dessus, pour que ça cesse d'être des formations de relégation, et qu'on en fasse des formations d'excellence, comme en Suisse et en Allemagne.
Et vous imaginez le lever du bouclier à gauche que ça peut provoquer ?
Oui, mais je pense que si on veut rebâtir le pays, il va falloir y aller.
Ouais. Mais c'est vrai que l'Allemagne, précisément, fonctionne sur ce système.
Hein. Exactement. Ouais. En Suisse, il y a moins de la moitié des enfants qui vont au collège. Les autres vont en formation technique, mais c'est des formations techniques très poussées, et ils peuvent devenir ingénieurs.
Et en faisant ça avec les industriels, il faut former des gens dont ils ont besoin.
Exactement.
Beaucoup de gens sortent, je parle sous votre contrôle, de l'université, avec ils n'ont pas le savoir que les industriels attendent, donc ils n'avaient rien. C'est terrible. Ouais.
Non, mais c'est... Mais comment est-ce qu'on en est venu ? Parce que précisément, la France a poussé les formations techniques, a poussé le niveau en maths. On le sait bien, les formations littéraires ont été complètement reléguées, etc.
C'était dans la même période 45-2000. Depuis un quart de siècle, on a réduit l'enseignement des mathématiques. On a réduit le nombre d'heures d'enseignement de mathématiques au lycée pour pas trop pousser ces pauvres chéries, c'était tête blonde et brune aujourd'hui, qui trouvaient que les mathématiques, c'était un peu contraignant. Mmh. En fait, on a maintenant des exemples. Avec les techniques de formation aux mathématiques à Singapour, on peut rendre les mathématiques attrayantes. On a, alors, de manière stupéfiante, il y a 5-6 ans, fait une réforme qui rendait les mathématiques non obligatoires au lycée, au moment où on sait que la révolution de l'intelligence artificielle et toutes les révolutions techniques sont à base de mathématiques. Voilà, donc ça fait partie des erreurs stratégiques absolument majeures. Vous voyez, en quelques minutes, on vient de dire que si les gens autour de cette table formaient le prochain gouvernement, on réautorise la recherche de pétrole en Guyane, on réautorise le travail sur le gaz d'Alsace, on autorise la recherche de lithium en France, on a découvert des mines incroyables et on n'arrive pas à obtenir les autorisations. Voilà, en très peu de temps, on peut remettre ce pays debout. Simplement, il faut écarter les réglementations et surtout écarter les visières qui font qu'on regarde.
C'est ce qu'a dit le président, puisque 150 grands projets.
Les auditeurs vont voter pour nous.
Hein, 150 grands projets, il appelle ça la théorie Notre-Dame. Ouais. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Pourquoi il n'a pas fait avant?
Voilà, c'est toujours pareil.
Et pourquoi il n'a pas fait avant?
Je sais bien. Alors maintenant, il nous explique qu'il faut des procédures d'exception pour tout ce qu'on veut.
Faut simplement changer la loi.
Faire avancer.
Et pas changer pour tout le monde et pas seulement pour 150 projets.
Exactement. Allez, on se retrouve avec vous, Christian Saint-Etienne, tout de suite.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Cariot, Jean-François Coulon-Desarts et Damien Chalamel, qui est très discret aujourd'hui, mais il écoute de toutes ses oreilles. Je voulais vous citer votre livre « Trump et nous » que vous avez
Damien
publié.
Damien qui est très enraciné.
Oui, très enraciné, voilà. Il s'enracine progressivement.
Il n'a pas quitté son oreiller depuis tout à l'heure.
J'espère qu'on arrivera à le sortir du studio quand même, même si
pour il travaille trop.
Mais c'était un compliment.
Oui, absolument. Et donc, à votre livre « Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe » qui est paru chez Odile Jacob, il y a un an à peu près, en ce sens.
Voilà. Dix mois.
Vous écrivez dans votre livre « La France, qui avait un potentiel scientifique et technique considérable à la fin des années 90, s'est désindustrialisée et donc elle s'est technologiquement suicidée depuis l'an 2000 avec l'idéologie radicalement fausse d'un supposé monde post-industriel et ses conséquences, comme la supposée fin du travail et le développement massif de la cistana. » Alors on est en plein dans les idées de notre ami Jacques Attali, qui nous a expliqué pendant des années que les bureaux d'études seraient en France, l'intelligence serait en France, et que les Chinois fabriqueraient ce qu'on leur demandait de fabriquer, et que tout cela serait stable et nous apporterait une prospérité extraordinaire. Sauf que les Chinois, au bout de 5 ans, ils ont compris qu'ils avaient aussi intérêt à faire des plans.
Alors tout le monde a fait cette erreur, hein, mais la France plus que les autres. On a pensé aussi, les Allemands, les Américains, qu'on allait envoyer les productions là-bas, on garderait la conception. Mais sauf que les Allemands ont gardé les usines aussi, et alors que la France a désindustrialisé. Et effectivement, à partir du moment où les Chinois, qui ont appris à fabriquer avec les technologies qu'on leur a envoyées, se mettent également à innover, eh bien, la France se retourne nue.
C'est-à-dire que
vous avez vu, par exemple, que Renault vient d'annoncer qu'il allait licencier ou réduire le nombre d'ingénieurs de 15%, et en même temps, il développe les capacités d'ingénierie en Chine. Mais surtout plein d'autres entreprises font ça.
L'industrie automobile est en train de licencier encore massivement, l'exemple
de BYD que je donnais tout à l'heure. Enfin, c'est ça. De voir la puissance de d'une seule compagnie.
Est-ce que vous pensez que l'industrie automobile, par exemple, peut un jour réembaucher en France, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cela? Parce que pour l'instant, on est plutôt sur la pente.
Même si Renault envoie redéveloppe ses capacités d'ingénierie en Chine, Renault a fait un joli coup avec la R5 électrique, si ce n'est que les batteries, elles viennent de là-bas. Peugeot était parti sur la voie de l'électrique, puis il y a eu un changement de management. malgré tout, la 208 électrique de Peugeot marche très bien. Donc, on a encore des capacités d'ingénierie et de réflexion. Si ce n'est que la France, Renault et Peugeot produisaient 3 millions de véhicules sur le territoire français en 2000. Aujourd'hui, on est à moins d'un million, alors que les deux groupes produisent toujours 5 millions de véhicules. Et simplement, ils le font dans leurs usines de Turquie, du Maroc, de Roumanie. C'est pareil pour donc Peugeot, qui est beaucoup présent, comme Renault en Espagne, en Italie. Bon, notamment l'Espagne a énormément gagné à la délocalisation. Pourquoi ? Parce qu'il y avait moins de réglementation en Espagne et surtout le coût du travail était inférieur de 40% à ce qu'il est en France. Donc, on a voulu, en France, désindustrialiser tout en augmentant les réglementations et le coût du travail. Donc, le résultat, c'est un pays qui est à nu. Et aujourd'hui, le malheur français, c'est qu'on nous prête, ce qui fait qu'on ne fait pas les ajustements. Et que donc, on augmente massivement l'endettement. Là, soit on se réveille. Moi, j'ai cru à chaque... naïvement à chaque élection présidentielle des 30 dernières années, qu'enfin on aurait des gens de qualité. Mais compte tenu de tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nature de nos élites dirigeantes, j'ai perdu cet espoir. Je n'ai pas perdu espoir en la France, mais je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est la rupture qui va venir. Et la rupture viendra le jour où... vous savez que le Trésor français emprunte 30 milliards par mois. Tous les 15 jours, on va chercher 15 milliards. Jusqu'ici, on en trouve 18 à 20 qui sont proposés. Puis un jour, on va aller chercher 15 milliards et on aura 14,5 proposés. Alors les gens peuvent se dire, c'est très bien, on aura encore 14,5, c'est faux. À l'instant où l'appel financement, dans la seconde, le monde entier le sait, et la fois suivante, zéro. On ne nous prêtera plus et pas du tout avec les taux d'intérêt actuels.
Donc la chute sera juste, très brutale.
Et juste pour
le FMI.
Le FMI. Je pense que les élites pleutrent, sans vision stratégique, impuissantes intellectuellement, déformées mentalement, implicitement attendre la venue du FMI pour dire, voyez, c'est le FMI qui fait les choses monstrueuses. D'un seul coup, on mettra la retraite à 67 ans. D'un seul coup, on durcira considérablement les conditions pour obtenir le RSA. Et d'un seul coup, on sous-indexera les retraites. Et les gens diront, mais c'est monstrueux. Alors que si on se mettait autour d'une table intelligemment, on pourrait faire un ajustement beaucoup moins violent.
Vous avez perdu l'espoir, en fait, dans la capacité de réforme de l'État français par lui-même.
Oui.
Vous pensez que ça viendra de l'extérieur?
Ça ne peut plus venir en interne parce que la nature des élites et également, vous avez mis à l'antenne tout à l'heure Alain Madelin. Les 30 dernières années montrent que les électeurs eux-mêmes, quand on leur présente une option libérale, le peuple vote à hauteur de 5% pour les options libérales. Donc, on a un peuple qui, je pense, rebondira après la rupture, sera d'ailleurs vraisemblablement très violent avec les élites qui l'auront trahi. Quand vous écoutez la radio et la télévision en permanence, en étant branché sur un certain nombre de vos concurrents, si vous passez votre vie sur France Inter et sur France 2, vous pensez
que... Il faut être solide, il faut avoir le moral...
Il faut avoir beaucoup de lectures annexes pour avoir une vision objective.
Cela dit, la situation en 58, quand De Gaulle arrive, et sur un point de vue économique, et souvenez-vous, est catastrophique.
Oui.
Et il remonte ça de main de maître.
Oui, grâce à Ruf Armand, il prend des mesures significatives, mais surtout, il entérine la dévaluation du franc de 17,5%. Ruf vient voir le général, parce que le général... La particularité des très grands, comme De Gaulle, c'est qu'il savait qu'il n'était pas maître en économie. Donc, il va chercher les compétences de très haut niveau. D'ailleurs, vous voyez toujours que les gens exceptionnels sont entourés de gens remarquables. Les minables s'entourent de minables pour ne pas être dominés. Bah, oui. Et donc, il va chercher Jacques Rueff. Et Jacques Rueff, il dit à Jacques Rueff, je ne supporte plus les dévaluations du franc et je ne supporte plus l'inflation. Ouais. Donc, comment mettre fin à l'inflation? Et Jacques Rueff lui dit, monsieur le, en général, monsieur le président, puisqu'il a été élu président à la fin de 58, monsieur le président, si vous voulez arrêter l'inflation, il faut arrêter le déficit public. Et en 2 ans, De Gaulle prend les décisions pour arrêter le déficit public. Aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, on tourne à 5 points de déficit public.
Ben oui,
et 5 points
5,2, je crois.
Et 5 points de déficit public, c'est 150 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on rajoute 150 milliards à la dette de 3600 milliards chaque année.
C'est ça.
Et donc, on a aujourd'hui un certain nombre de mesures qu'on pourrait mettre en œuvre pour diviser par deux le déficit en 2 ans. Mais ça passe par un gel des dépenses au niveau des collectivités locales, l'arrêt du recrutement de fonctionnaires. Ça passe par... je suis un gentil garçon, donc je ne dis pas ça par méchanceté.
Il y a 5 millions de fonctionnaires.
Une petite sous-indexation des retraites, 0,5% par an suffirait. C'est-à-dire que si l'inflation est à 2, on indexe à 1,5%. Pour les retraites et pour les indemnités handicap. Mais en revanche, tout ce qui est RSA et toutes les allocations,
dans les aides sociales.
Toutes les allocations non contributives, elles sont gelées en nominal pendant 3 ou 4 ans. Donc, on protège les retraités et les handicapés, mais tous ceux qui peuvent travailler, on ne supprime pas immédiatement les allocations parce qu'il faut relancer l'économie, mais on les incite à aller bosser. Quoi.
Y a un point, simplement, pour terminer, parce qu'on resterait des heures, il y a beaucoup de sujets, mais il y a un point que vous soulignez dans votre livre qui est très important, c'est l'Union européenne. On n'en a pas beaucoup parlé. Vous écrivez, par exemple, « L'Union européenne est un été noir qui a tué l'essor des nations qui la composent ». Vous ne l'avez pas évoqué dans les boulets que la France traîne. Là, on n'est pas dans la formation des élites. Et demain, si jamais il fallait redresser ce pays, qu'est-ce qu'il faudrait faire de l'UE?
Alors, je vais encore me faire des copains, mais...
Allez-y, on est entre nous.
On crée donc le marché commun en 58, enfin, traité signé en mars 57, mais la communauté économique européenne démarre le 1er janvier 58. Et donc, pendant une vingtaine d'années, l'objectif, c'est de favoriser l'essor économique de l'Europe et ça contribue à l'essor français. Bon. Mais à l'époque, on a quand même des dérives politiques déjà, mais on dévalue régulièrement. Donc, on remet les compteurs à zéro régulièrement. Quand Mitterrand décide, par le traité de Maastricht de 91, de lier la monnaie française à la monnaie allemande, il ne réalise pas que ça suppose des ajustements de la protection sociale, ça suppose une réduction des impôts sur ceux qui bossent et créent des richesses. Donc, on crée un système où à la fois, on veut être aussi compétitif que les Allemands et néanmoins, on distribue beaucoup plus d'aide sociale que les Allemands. Donc, ce système, il ne fonctionne pas et il produit l'effondrement qu'on a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe à partir de la création du marché unique, l'acte unique, et puis ensuite, les durcissements ultérieurs qui conduisent au traité de Lisbonne, donc de 2007, on se retrouve avec une bureaucratie qui fonctionne sur la base... Alors, c'est pas une attaque des fonctionnaires européens, c'est une analyse du fonctionnement de l'Europe. Il se trouve que l'analyse des bureaucraties a conduit à 3 prix Nobel d'économie. Donc, c'est quelque chose qui est étudié sérieusement. Des bureaucraties, il y en a dans les systèmes publics, mais il y a des entreprises qui fonctionnent comme des bureaucraties. Un système bureaucratique qui fonctionne sur la base de règles. Et simplement, au niveau européen, pour mettre en place des règles, il faut 3 à 7 ans. Pour modifier des règles, il faut 18 mois à 3 ans. Quand on était dans le monde d'avant le marché unique, ça ne posait pas trop de problèmes. Ou même jusqu'en 2000, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais quand la Chine entre à l'OMC et se met à croître à 9% par an, quand l'Allemagne fait des réformes pour avoir des finances publiques saines, quand même l'Italie investit massivement dans les entreprises du nord de l'Italie, eh bien nous, nous détruisons notre système industriel et nous nous retrouvons en grande difficulté. Donc on a une Europe qui est devenue totalement bureaucratique au sens de la théorie de la bureaucratie. Et le résultat, donc, il est incontestable. Ça fait 20 ans que l'Europe croît à 1% par an, alors que la croissance du monde est à plus de 3%. Donc il faut comprendre que quand vous êtes à 1% et le reste du monde à 3%, c'est...
Il y a quelque chose de structurel.
Vous vous rétractez en puissance dans le cadre mondial.
Vous l'Europe, perdez c'était, relativement par rapport aux autres. Quoi.
L'Europe, c'était un quart du PIB mondial en 2000. Aujourd'hui, on est à 17%. Et on continue de baisser. On était au niveau des États-Unis, voire au-dessus. Maintenant, on est en dessous de la Chine. Bientôt, l'Inde va prendre la place de l'Union européenne. Et la France elle-même, à cause de la désindustrialisation, n'a cru qu'à hauteur de 1%. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un échec français dans un échec européen. Et donc, c'est pour ça que, personnellement, j'ai écrit ce livre. Je fais des propositions pour transformer le fonctionnement bureaucratique de l'Europe. Je propose notamment que la Commission européenne devienne le secrétariat politique du Conseil européen, c'est-à-dire qu'elle perde une grande partie de sa capacité de proposer de nouvelles...
Vous voulez redonner leur place aux États.
Voilà, pour moi, je pense qu'il faut retourner vers l'idée fondamentale du plan Fouché de De Gaulle, qui était un collectif de nations qui travaillent ensemble, mais pas avec des fonctionnaires européens qui disent aux nations ce qu'elles doivent faire, parce que les fonctionnaires européens n'ont aucune vision stratégique. Avec le Green Deal, on a tué l'agriculture européenne. Avec toutes les réglementations sur l'intelligence artificielle et autres, on fait fuir les chercheurs aux États-Unis ou on favorise la Chine. Donc, vous avez les seuls motifs d'espoir, c'est que l'Allemagne, qui avait contribué pas mal à cette bureaucratisation de l'Europe, est elle-même en train de s'en prendre plein la gueule. Les deux grands points forts de l'Allemagne, qui étaient les exportations de voitures et les exportations de machines-outils, elle est en train de se faire dépasser par la Chine avec des coûts inférieurs de 30%. Donc même les Allemands commencent à prendre peur. Vous avez évoqué tout à l'heure les suppressions massives d'emplois dans l'automobile allemande. On parle de centaines de milliers qui sont supprimés. Le seul Volkswagen a annoncé en décembre 2024, des suppressions, 30 000 emplois que pour lui. Et tous les sous-traitants font pareil. Et en France, les sous-traitants
c'est
suivent.
C'est vraiment le massacre d'une filière.
C'est un massacre d'une filière qui pesait 10% de l'économie européenne. Donc, donc les Allemands sont en train de demander des modifications de ces réglementations. La question, c'est est-ce qu'on est encore assez puissant pour résister à des BYD qui, pendant toute cette période d'errement, sont devenus des puissances industrielles massives.
Il faut que les Européens soient européens, que les Français soient français et qu'on achète français.
Voilà.
C'est à peu près le programme de Christian Saint-Étienne, c'est bien résumé.
Exactement.
Il le dit de manière sur plus de pages avec beaucoup plus d'arguments.
Le Rassemblement National, à certains égards.
Si ce n'est que le Rassemblement National ne se donne pas forcément les moyens de réindustrialiser. mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir.
Sur l'Europe, c'est... J'ai le droit, une minute.
Les
transfrontaliers. Il y a deux sénateurs qui ont agité la cloche. François les transfrontaliers, c'est quoi ? Ce sont les Français qui travaillent en Belgique, en Suisse, au Luxembourg.
Qui habitent en France, etc. Et qui travaillent en dehors des frontières.
Ils sont payés donc, à l'étranger. Ils payent des cotisations sociales, bien sûr, des cotisations de chômage. Mais quand ils sont au chômage, quand ils sont licenciés, ce sont les Français qui payent.
Oui.
Alors,
il
y a un petit bout. Les pays étrangers redonnent un petit bout français. Enfin bref, le déficit depuis 10 ans, c'est 1 milliard par an. On discute avec les Européens, donc avec nos partenaires, depuis 2016, pour changer ça. Ça fait 10 ans qu'on discute, ça fait 10 ans que ça ne bouge pas, ça nous coûte 1 milliard par an.
Alors, vous avez totalement raison, mais simplement, quand on discute en disant, faisons pas de vagues. En fait, la question, puisque vous me la posiez, il faut retrouver une capacité d'action à la tête de la France qui ose changer les règles internes, mais qui ose aussi créer une crise majeure en Europe pour changer la nature de fonctionnement de l'Europe.
Voilà. Bon, mais écoutez, vous reviendrez et on analysera les programmes des présidentielles à l'aune de vos propositions et de votre ligne. Ça sera intéressant lorsqu'ils les auront publiées, parce que pour l'instant, on ne sait rien. Voilà. Donc, sur le plan économique.
Mais en tout cas, merci de m'avoir invité.
Merci infiniment, Christian Saint-Étienne. Simplement un petit mot d'un auditeur qui nous dit il parle du niveau en maths. Le programme de 1970 en maths série C aboutissait à 3 manuels totalisant environ 1200 pages. Ces manuels sont introuvables de nos jours, se négocient à des centaines d'euros. Donc, ça se voit aussi dans les manuels.
En enseignement de la littérature, c'était la même chose. Il y avait le Lagarde et Michard.
Lagarde et Michard, formidable. Ça, c'est ça. Je les ai gardés.
Exactement. Moi aussi. Parce que ce que vous dites de des maths est tout à fait vrai aussi pour
l'enseignement
littéraire.
Voilà, exactement.
Et plus encore.
Et l'histoire.
Et plus encore.
Et l'histoire, la destruction de l'enseignement de l'histoire est en fait une... C'est pas un accident, c'est une entreprise idéologique totalement cohérente.
Il y avait
un mot là-dessus, si vous me permettez, puisque vous parlez d'histoire. Quand on parlait du Guesclin, on s'en foutait de du Guesclin. Ce qu'on mettait en avant, c'était le courage. Quand on parlait de Jeanne d'Arc, on s'en foutait de Jeanne d'Arc. Ce qu'on parlait, c'est ce dont on parlait, c'était la vision spirituelle et l'amour du pays. Quand on parlait de
Napoléon,
qui a laissé la France affaiblie par rapport à celle qu'il a trouvée.
Ne marchandons pas la grandeur.
Voilà, mais les premières années de Napoléon.
C'est De Gaulle qui dit ça, maintenant.
Voilà, ouais. Il a insufflé une vision très forte. Clémenceau, puis surtout ensuite De Gaulle. Donc ces gens-là, ils insufflaient des valeurs. Donc, ce n'était pas le personnage qui nous intéressait, c'était la valeur. Et donc, comment on a voulu détruire les valeurs, on a détruit les personnages.
Et on a tout détruit avec tout cela. Christian Saint-Étienne, je recommande à nouveau votre livre « Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe » chez Odile Jacob. Merci infiniment.
Merci à vous.
C'était passionnant. Merci Christian Saint-Étienne. Et nous allons parler du Bataclan, 2015.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Retour sur un exploit avec le patron de la BRI. Il aura fallu 10 ans. Les 59 membres des forces de l'ordre qui sont intervenus au Bataclan face aux terroristes le soir tragique du 13 novembre 2015 ont reçu cette semaine, ce 21 avril, les insignes de la Légion d'honneur. Parmi eux, des policiers de la préfecture de police, de la brigade de recherche et d'intervention la BRI du RAID et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, tous ceux qui ont donné l'assaut au Bataclan, plus deux présidents d'associations de victimes. Et nous sommes avec l'ancien patron de la BRI qui est intervenu au Bataclan en 2015. Il est aujourd'hui le patron de la BRB, la brigade de répression du banditisme. Mais ce n'est pas seulement le grand flic que nous recevons ce soir, c'est aussi l'écrivain, l'auteur à succès de Polar et lauréat 2026 du prix du Quai des Orfèvres pour Brûler tout, son livre qui a été publié aux éditions Fayard. Bonjour, commissaire Christophe Molmy.
Bonsoir.
Bonsoir. J'imagine qu'un tel épisode, je parle du Bataclan, ça compte dans la vie d'un policier.
Ah, sûrement, mais là, vous m'invitez avec une autre casquette, celle de l'auteur, donc parlons du livre.
Bon, alors parlons du livre. Franck Herriot, justement,
oui.
À propos du livre.
Oui, à propos du livre, donc Brûler tout, effectivement. Mais alors d'abord, je devais un petit peu présenter le prix du Quai des Orfèvres, parce que c'est aussi à ce titre-là que le commissaire Molmy est là ce soir. Voilà. Alors, ce prix est composé d'un jury, composé donc d'anciens patrons de la PJ parisienne, de magistrats, d'avocats, et il y a même un médecin légiste, mais aussi de journalistes et d'écrivains. Je voudrais simplement, je suis aussi.
Oui, Franck Herriot, vous êtes le secrétaire général du prix du Quai des Orfèvres. Vous vouliez nous en dire un petit peu plus sur cette distinction littéraire.
Exactement.
Et outre qui a été créée en 1946, ancienne.
Voilà. Et outre la qualité littéraire, évidemment, incontournable, ce qui compte dans les manuscrits qu'on reçoit, c'est la réalité, l'exactitude des procédures judiciaires, du travail des policiers ou des magistrats, qui est essentiel, même s'il s'agit toujours de fiction. Alors, le prix du Quai des Orfèvres, c'est le fameux... évidemment le fameux 36, le temple historique, mythique de la PJ et de la célébrissime brigade criminelle immortalisée par Georges Simenon et son commissaire Maigret. C'est important de préciser que ce prix aussi est ouvert à tous, pas seulement aux policiers, ce que croient beaucoup de gens, que les manuscrits sur lesquels se prononcent les jurés, car il s'agit bien de manuscrits, c'est important la, la différence, il s'agit de manuscrits et pas de livres déjà publiés, ces manuscrits sont anonymes. Je précise encore que le prix du Quai des Orfèvres, vous le disiez, a fêté, s'il a été créé en 46, et a fêté cette année ses 80 ans, ce qui en fait, je crois, le prix le plus ancien avec le Goncourt, et que son succès ne se dément pas chaque année. Il se vend en moyenne à plus de 150 000 exemplaires. Il a même atteint, il y a deux ans, les 250 000 exemplaires, ce qui, évidemment, ouais, est exceptionnel, surtout dans la, la disette que connaît l'édition ces dernières années.
Impressionnant. Alors, commissaire, vous parlez, votre livre traite de la terreur qui serait installée via les réseaux sociaux, hein, je crois. Est-ce que c'est vraiment du roman ou est-ce que c'est une vraie menace ?
Bah, c'est un peu les deux. Hein. Aujourd'hui, on doit composer parce que la PJ, depuis plus de 100 ans, on a cessé de s'adapter. Et il a fallu ces dernières années, alors déjà il y a 20 ans, apprendre la téléphonie. Ensuite, il y a une quinzaine d'années, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est l'IA. Et en effet, les réseaux sociaux, c'est un acteur des enquêtes aujourd'hui. Et c'est surtout un moyen derrière lequel pourraient se cacher facilement des criminels ou des terroristes.
Et est-ce que vous avez suivi, évidemment, le pillage des données de l'ANTS, vous savez, l'association nationale, j'ai pas le déroulé, tiens, tout d'un coup, enfin bref, toutes les données d'identité des Français, est-ce que c'est, on a vu donc que le risque était plus que réel, est-ce que ça pourrait rentrer dans un de vos romans ?
Pourquoi pas, mais là c'était pas tellement l'idée, hein. L'idée c'était de combiner à la fois les réseaux sociaux derrière lesquels se cachait un groupe extrémiste, qui manipulait la foule. Moi, je me rappelle, comme vous, en 2018, les grandes manifestations des Gilets jaunes qui n'avaient pas de représentants. Il n'y avait pas de parti ou de syndicat qui était devant pour négocier. Donc, on avait une foule comme ça qui était difficile à maîtriser et qui aurait pu tout à fait, on peut l'imaginer, attaquer l'un des palais nationaux. Et puis, dans la réalité, rappelez-vous ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Capitole. Tout ça, c'est pas de la fiction. Ça pourrait arriver. Et d'ailleurs, je me suis en partie inspiré d'une vraie affaire, hein, un mis en cause qui, avec quelques-uns, avait commencé à commettre des infractions et avait pour projet un peu fou d'attaquer l'Élysée et d'essayer de prendre le pouvoir en renversant la République. Et les réseaux sociaux peuvent permettre ça, parce que si vous voulez, auparavant, pour avoir une entreprise criminelle ou terroriste, il fallait se rencontrer. Donc on se rencontrait dans des soirées, dans des restos, dans des bars... Mais aujourd'hui,
il fallait détecter les endroits où les gens pouvaient se retrouver, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout ça est dématérialisé.
C'est tout à fait dématérialisé. De chez vous, vous pouvez tout à fait contacter des gens et puis nourrir un projet sans même les rencontrer physiquement, hein, d'ailleurs, à aucun moment, parfois. Donc ça peut être angoissant, et pour une intrigue criminelle, au-delà de la réalité, c'était passionnant.
Mais est-ce que le travail du policier, le travail de base du policier et de l'enquêteur a changé ?
Ben oui, mais il n'a pas cessé de changer, hein, en fait. Hein, ça a changé avec les tractions avant, ça a changé, je vous disais, avec la téléphonie, avec l'informatique, maintenant avec les réseaux sociaux, demain ça sera avec l'IA. Il faut s'adapter à notre société. On passe notre temps à s'adapter au monde qui nous entoure. Donc oui, bien sûr que la manière de travailler a changé. Dans une certaine mesure, elle a changé sur les moyens employés et ceux sur lesquels on doit travailler. Après, une enquête, ça reste une enquête, et il faut quand même avoir des flics qui ont de l'instinct, c'est une matière humaine, hein. Il faut avoir une patte humaine, il faut avoir une certaine psychologie, et les enquêteurs ne seront jamais remplacés par des IA, de toute façon.
Mais j'imagine que la difficulté, c'est quand même le repérage des suspects, le repérage physique, du coup.
Ah bah c'est plus simple quand on s'attaque à des suspects physiques, oui, effectivement, c'est toute la difficulté sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, vous aviez un criminel qui, par exemple, via les réseaux sociaux, haranguait la foule en disant « Voilà, ce soir, à 20h, moi, je vais tuer quelqu'un en direct je vais filmer ça et je vais le poster. » Moi, je suis convaincu qu'il y a une somme de personnes impressionnantes qui regarderaient, quoi. Et s'il donnait rendez-vous régulièrement, je pense qu'il arriverait à drainer l'attention des gens. Je vous apprends rien, mais sur les réseaux sociaux, on a le pire, quand même, en général. Hein. On a des choses abominables. Hein. Je parle même pas de la pornographie, mais... Il y a une violence endémique qui se répand sur les réseaux où tout est décomplexé et on peut tout faire, quoi.
Oui, il y a tout, mais un peu comme dans la rue aussi, et ailleurs, comme dans la vie, non ? On trouve aussi le meilleur.
Le fait que ce soit dématérialisé comme ça, on peut avoir l'impression que ça n'a pas de conséquences.
Ouais, ouais.
Et donc on s'autorise des choses, on s'autorise de dire des choses, de décrire des choses, de faire des choses qu'on ne ferait pas en réalité, quoi. C'est d'une violence rare.
Ouais, ouais, et ça peut être de fait un véhicule de terreur. Damien Chalamel avait une question pour vous.
Oui, vous évoquiez ces menaces de déstabilisation en évoquant une personne qui s'imaginait prendre le pouvoir à l'Élysée, mais moi, il me semble, de ce que je comprends, de ce que je suis de cette actualité judiciaire, c'est que, ou policière, c'est que les vraies menaces de déstabilisation de nos sociétés, et notamment par le biais des réseaux, c'est qu'il y a en réalité, il y a toujours une influence, une origine étatique, quand elles sont vraiment substantielles.
Ça pourrait, en effet, on a toujours le spectre des Chinois, des Iraniens, des... Oui,
ou des Russes, enfin, bon, voilà.
Ou des Russes, oui, oui. Mais ça peut être.
Je ne crois pas tellement voilà, à l'informaticien. Oui, mais non, mais je veux dire par là, l'individu, le geek, comme on dit, bon, il n'y a pas d'équivalent.
Ouais, mais là, il n'est pas tout seul hein, dans votre roman. Hein, c'est...
Ouais. Non. Ouais. Dans l'histoire, il n'est pas seul. Vous avez un groupe criminel, hein, un terroriste. Avec un dessin qui multiplie les attentats pour pouvoir provoquer une réaction dans la population et motiver des effets de foule, quoi. Et théoriquement, ça peut tout à fait se produire.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment la bascule des méthodes terroristes dans un univers virtuel des réseaux sociaux, quoi. Hein.
C'est ça, c'est aiguillonner les gens via les réseaux sociaux pour les motiver à suivre une actualité, à suivre des attentats et ensuite se regrouper. Sous prétexte de populisme, parce que souvent on a derrière un discours populiste assez fort.
Jean-François Coulon-Désert, et puis après ça je vous demanderai comment est-ce qu'on peut essayer de lutter, se prémunir contre ce que vous avez raconté.
Hein, oui, monsieur le commissaire, une question à double tiroir. Est-ce que l'IA est un enquêteur de plus pour vous au quotidien, et est-ce que l'IA pourrait être un très beau personnage ?
Alors, c'est pas un enquêteur de plus, c'est un moyen supplémentaire qui est mis à la disposition des enquêteurs. Bon là, il s'agissait d'un roman, mais dans la réalité, il faut pas se priver d'outils qui permettent de déterminer plus vite des éléments, par exemple. Mais l'IA, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pourra pas remplacer l'humain, ça n'arrivera pas. In fine, quand vous avez une enquête, elle se termine en règle générale par des interpellations et des auditions. Dans le corps d'une audition, il y a une interaction humaine. Il y a des choses qui se passent pendant ce temps de 24, 48 heures ou plus. Une machine ne va pas réussir à faire parler quelqu'un. Ça n'arrivera pas. Moi, j'y crois pas du tout. Après, ça pourrait être tout à fait, en tant qu'auteur, oui, ça peut être.
Voilà.
Je pense que ça a déjà été fait, hein, dans la science-fiction en particulier. Mais en tant qu'auteur, on pourrait imaginer que l'IA soit un personnage à part entière. Absolument. C'était pas le souhait. La direction que j'ai prise dans Brûler Tout.
Mais pour le
c'était
prochain.
Un vecteur, simplement. Mais ça pourrait. Bon, on va changer un petit peu pour le prochain. mais ça pourrait tout à fait être un sujet, ouais, bien sûr.
Damien Chalamel ?
Oui, mais ouais. Pour prolonger la question de Jean-François Coulon-Désert, la police judiciaire utilise quand même. Enfin, c'est une question. Hein, est-ce que la police judiciaire utilise l'IA, notamment. Dans la mesure où elle permet de croiser de manière exponentielle des données de toutes sortes, des données d'identification, des criminels, des délinquants. Est-ce qu'il y a une utilisation ou c'est encore embryonnaire ?
Je ne suis pas là pour parler de la PJ, je ne suis pas là pour
non, non,
ça,
non,
je suis un auteur. Là, mais oui, on peut imaginer, effectivement, mais on ne peut pas se priver des outils qui sont à notre disposition. Encore une fois, on s'adapte à la société dans laquelle on évolue. Donc oui, bien sûr.
Alors, je crois que vous, dans le livre, hein, il y a une insurrection, hein, qui est,
oui.
En tout cas, il y a la crainte d'une insurrection. Est-ce que ça donne des éléments nouveaux, un impact nouveau pour justement susciter une insurrection ? Parce que c'était jusque-là dans l'univers matériel, on va dire, hors virtuel, quand on n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est compliqué, une insurrection. Ça prend beaucoup de temps, il faut contacter des tas de gens, parler aux foules, etc. Est-ce que là,
c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que auparavant, quand vous aviez une motivation terroriste et que vous vouliez haranguer les foules, il fallait le faire physiquement.
C'est ça.
Il fallait réussir à toucher les gens. Alors, vous pouviez le faire par des actions, hein, en posant des bombes et en fustigeant comme ça l'opinion publique. Mais si vous vouliez vous adresser aux gens, à un moment, vous étiez un peu coincé, quoi. Là, aujourd'hui, n'importe qui peut poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux et pour le peu, à un moment, être suivi par des millions de personnes. Il n'y a pas de limite. Et vous n'avez pas besoin de les rencontrer physiquement. Vous n'êtes pas obligé d'organiser un meeting, de faire venir les gens pour leur parler. C'est tout le drame des réseaux sociaux. Ça vaut aussi pour les enfants. Vous avez des parents qui imaginent que parce que leurs enfants sont dans leur chambre, ils sont à l'abri. En réalité, avec leur téléphone portable, ils peuvent être touchés par tout et n'importe quoi. Donc, les réseaux sociaux ont complètement dématérialisé les relations humaines. Et les ont ubérisées aussi, parce que maintenant, on se rencontre, on passe de l'un à l'autre. Vous voyez bien, quand vous êtes dans le métro, j'en parle dans le bouquin, vous regardez à côté de vous les jeunes, ils scrollent, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ils passent d'une vidéo à une autre, ils consomment comme ça de l'information. Donc, le paradigme a changé, a profondément changé, oui, je pense, avec les réseaux sociaux.
C'est pas tout à fait de l'information, généralement, mais oui, ils consomment énormément.
Malheureusement, pour eux, c'est de l'information.
Oui, pour eux, oui.
Pour les journalistes, ça n'en est pas, mais pour notamment les jeunes, c'est de l'information qui circule sur les réseaux et est réputée être vraie.
Christophe Malmy, Jean-François Coulon-Desart.
Oui, dites-moi, pour l'écrivain que vous êtes, vous faites un métier formidable, parce que c'est d'une richesse pour créer des personnages, pour des situations, pour se faire inspirer. C'est absolument incroyable. Vous avez tout à portée de main, si j'ose dire.
C'est l'idée. Ouais. Je manque sûrement d'un peu d'imagination, mais j'écris sur mon métier. Moi, j'écris aussi parce que sur la police, parce que quand j'étais gamin, j'ai été amené à la PJ par ça. C'est-à-dire que je lisais les bouquins de mon père. Moi, je lisais Borniche, Sinon. J'ai découvert l'ambiance de la police judiciaire et j'ai eu cette envie d'être flic en lisant des livres d'abord, et puis ensuite aussi, il faut bien le reconnaître, avec la télé et le cinéma. Mais les premiers émois, c'est la lecture. Donc, j'avais envie de participer un peu à ça et puis de donner envie à des jeunes aussi de rejoindre la PJ. Moi, j'essaie d'écrire des choses réalistes. Alors, tout est vrai ou vraisemblable. Mais en tout cas, l'ambiance est réelle. Les enquêtes sont soit des vraies enquêtes ou des morceaux de vraies enquêtes ou des choses qui sont tout à fait vraisemblables. Il n'y a rien de surréaliste. Parfois, vous avez des romans qui sont très, très bien écrits, d'ailleurs, et qui sont extrêmement loin de la réalité et qui sont complètement surréalistes.
Oui. Là, vous êtes dans le concret.
Non, mais là, comme on dit, tout est vrai puisque vous avez tout inventé et tout est inventé puisque tout est vrai. Voilà. Ça s'appelle un écrivain.
Christophe Malmy, dernière question. Comment est-ce qu'on peut se prémunir contre un scénario d'insurrection lié aux réseaux sociaux, ce que vous racontez dans votre livre? Et est-ce qu'il n'y a pas, si on cherche à s'en prémunir, un risque liberticide?
Fondamentalement, c'est toujours le problème. Si vous voulez contrôler l'information et contrôler les interactions humaines, vous pouvez effectivement les serrer et puis vous prémunir de tout risque, mais c'est liberticide. Et si vous autorisez tout, vous laissez la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc il faut trouver un équilibre. Je crois qu'en France, on a quand même un pays démocratique dans lequel on peut encore dire à peu près ce qu'on veut, mais ça n'empêche pas, et en particulier les services de renseignement, d'assurer une vraie veille sur ce qui se passe, y compris sur les réseaux. Moi, c'est pas mon métier, mais je crois quand même me rappeler qu'ils ont évité de très nombreux attentats et ils font un travail formidable.
Christophe Malmy, merci infiniment d'avoir consacré quelques minutes. C'était passionnant. Je recommande votre roman Brûler tout. Il a remporté le prix du Quai des Orfèvres en 2026. C'est chez Fayard, hein, c'est ça? Fayard.
C'est ça.
Merci Christophe Malmy.
Merci
voilà.
À vous. Bonne soirée.
Bonne soirée. Et nous avons pour les dernières minutes notre petit clin d'œil culture, notre club culture, tout de suite.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Herriot, Jean-François Coulon-Desart et Damien Chalamel, c'est l'heure du clin d'œil culture. Qui veut commencer? Damien Chalamel, tiens, par exemple.
Je tiens entre mes mains un excellent ouvrage.
Un très gros volume.
Comme on dit en italien, un mattone.
Presque 500 pages.
Presque 500 pages, 490 pages.
Ouais.
C'est un livre d'histoire intellectuelle d'un mouvement qui est connu sous le terme de journalistique de Nouvelle Droite. Donc l'ouvrage s'appelle La Nouvelle Droite, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Il est d'un certain François Damblin et il est sous-titré Un panorama historique et métapolitique. Donc c'est l'histoire et le cheminement des différents intellectuels, au rang desquels au premier chef Alain de Benoist, qui à partir de 67 et jusqu'à nos jours, ont entrepris à travers la publication de revues que sont Nouvelle École, Éléments, Crisis, et puis d'une vie communautaire qui concernait les intéressés, de remettre à plat un certain nombre de concepts, d'idées, autour de réfléchir sur les questions culturelles, de longue mémoire, d'identité, d'enracinement, d'écologie, etc. etc. C'est réellement passionnant. Et on réalise en fait des...
C'est un peu historique, on fait on suit le cours de l'histoire,
c'est chronologique. Et on comprend en fait, moi qui connais, pour avoir lu un certain nombre d'ouvrages des intéressés, qui les connais assez bien, mais je n'avais pas réalisé certaines filiations
est-ce qu'il y a un personnage qui se détache en dehors d'Alain de Benoist
Oui, je pense que c'est Alain de Benoist, très clairement.
Le pape de la Nouvelle Droite.
Mais maintenant, il était entouré de personnes qui sont toujours vivantes, d'ailleurs, pour certains. Enfin, je pense à Michel Marmin, Faye, qui est décédé. Et avant lui, il y a Dominique Vénère, dont il a été très proche, parce que ce sont des militants qui ont été très jeunes happés dans le militantisme. Alain de Benoist, c'est un écrivain et un journaliste par accident. C'est quelqu'un qui était avant tout dans le militantisme très jeune. Et puis en même temps, c'est aussi vraiment le panorama français et une histoire intellectuelle. C'est l'histoire intellectuelle de la Nouvelle Droite, mais dans ces 30-40 dernières années, avec l'aventure du Figaro Magazine, la figure de Louis Powells, la tentative de l'engagement politique connue notamment via...
Louis Powells, qui était le père du sida mental, qui avait lancé cette expression.
Donc c'est...
Expression très riche.
Et puis on voit un tas d'autres figures, qui sont aussi des compagnons de route. Je pense à Janco, par exemple, parmi les journalistes. Qui était longtemps une des plus belles plumes de Paris Match.
Qui était longtemps aussi le secrétaire
de l'Express.
Et qui était le secrétaire de Sartre, bien sûr. C'est comme ça qu'il a commencé, venant de son héros natal. C'est comme ça qu'il s'est lancé dans la vie parisienne.
Excellent. Vous nous rappelez le titre, Damien ?
La Nouvelle Droite, un panorama historique et métapolitique aux éditions de la Nouvelle Librairie par François Damblin.
François Damblin, D-A-M-B-E-L-I-N. Merci, cher Damien. Jean-François Coulon-Desarts.
Ben écoutez, moi je vais vous parler de deux femmes qui s'appellent toutes les deux Hélène. Alors vous avez une qui s'appelle Hélène Gordon, et la deuxième s'appelle Hélène Crisovelloni. Est-ce que oui, je vois Damien qui il a trouvé. Alors Hélène Gordon, elle est née en 1909. Et on fait une biographie sur cette femme. Alors, vous allez tout de suite comprendre si je vous dis que c'était la femme de Pierre Lazareff. C'est une femme extraordinaire.
Incroyable. Pierre Lazareff.
Oui, grand patron de presse de l'après-guerre.
Et Hélène aussi, puisque c'est elle qui crée magazine. Elle, c'est elle qui crée Hélène. Donc, c'est un bouquin formidable qui s'appelle La vie prodigieuse d'Hélène Lazareff. C'est ça. C'est a été écrit par Iseult Williams. Et c'est chez Grasset. Vous voyez, on n'est pas... c'est chez Grasset. Aussi des bons bouquins chez Grasset.
Une très bonne maison d'édition.
Très bonne maison d'édition.
Très, très ouvert dans cette
édition. Et l'autre, on l'a connue, donc, Mademoiselle Crisovelloni. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'Hélène Gordon, c'est son nom de jeune fille. Elle est née en Russie, à Rostov, comme Lazareff. Lazareff aussi, il vient d'Ukraine. Et puis, quant à Mademoiselle Crisovelloni, elle est roumaine. Excellente famille roumaine, avec beaucoup de propriétés. Bref, elle devient Madame Suzzo et elle épouse Paul Morand. Voilà.
Ah,
et ça va être une histoire.
C'était l'épouse roumaine de Paul Morand.
Hélène est née en 1879. Elle avait 8 ou 9 ans, je crois, de plus que Paul. Et le livre s'appelle Hélène et Paul Morand. C'est signé David Bonneau. C'est chez Plon. Et je suis en train de lire et c'est formidable. Voilà.
Merveilleux. Et bien voilà, la consigne est passée.
C'est une figure évidemment passionnante. Je recommande, il y a une excellente biographie de Paul Morand de Pauline Dreyfus.
Dreyfus, il y avait Guitarovist aussi.
Moi j'ai lu celle de Pauline Dreyfus, qui est chez Gallimard, de mémoire, qui est sortie il y a quelques années.
Oui, absolument.
Qui est vraiment remarquable.
Très, très bonne biographie, je suis d'accord. Ouais. Que Franck a lu aussi, d'ailleurs.
Franck a lu aussi la biographie.
Donc c'est une référence pour Jean-François.
Donc c'est une référence. Non, et c'est vrai que c'est Lazarev qui a tenu vraiment le haut du pavé.
Oui, François.
C'était un grand patron de presse. Littéraire,
c'était un très grand patron de presse. À l'époque où la presse, vraiment...
Bon, bah, François tirait 1,5 million d'exemplaires, je veux dire, tous les jours. Absolument. C'était absolument surréaliste, avec plusieurs éditions.
Mais c'est ça, c'était le patron de TF1, un peu... Hein,
c'était même ça, plus puissant.
Même peut-être plus puissant, parce que...
Plus puissant, vous savez pourquoi?
Et parce puis c'était que l'information, avait... TF1, il y a beaucoup de divertissement.
Parce qu'il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux, bien sûr, et les gens croyaient ce qu'il y avait, parce que c'est vrai, je l'ai lu dans le journal. C'est vrai, je l'ai vu en photo. Maintenant, c'est vrai, j'ai vu la photo. Bonjour l'IA. On ne sait plus ce que c'est, si c'est vrai ou pas.
Absolument.
Donc il y avait beaucoup plus d'interpénétration dans le pays.
Et puissant financièrement aussi, puisque la publicité à l'époque se déversait dans la presse écrite essentiellement.
Absolument. Et grands personnages de la.
Oui.
Et
c'est passionnant.
De cette époque, tous les deux. Et ce qui est amusant, c'est que Pierre Lazarev donc était à la tête de François, et comme vous l'avez dit, Hélène Lazarev était elle aussi une grande patronne de presse, créatrice de Elle, qui reste aujourd'hui la figure.
Au firmament de la vie intellectuelle d'après-guerre. Tous les grands écrivains, ils recevaient tout le monde, les journaux leur étaient ouverts, etc. Je veux dire, ils se trompaient pas en plus. Hein.
Ouais. Absolument. Franck Herriot.
On va rester avec les femmes.
Ah.
On va aller à Nogent-sur-Seine, où il y a un musée magnifique, fantastique, qui est le musée Camille Claudel. Alors, ne sont pas exposées seulement des sculptures de Camille Claudel, mais aussi d'autres sculpteurs, et notamment de Rodin. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a beaucoup accusé Rodin d'avoir été l'âme damnée de Camille Claudel, de l'avoir enfoncé, de l'avoir pillé. En fait, pas du tout. Ils se sont vraiment inspirés l'un l'autre. Et c'est ce qui est intéressant à travers ce musée, qui est une exposition permanente. Hein. Donc, je conseille vraiment à tout le monde d'aller dans ce petit, je sais pas si c'est une ville ou un village, d'y aller parce que c'est un très joli musée.
Merveilleux, Camille Claudel, figure très attachante. Voilà. Et moi, je voulais vous parler d'un drôle de truc. Ça s'appelle Emeline Paris. Tout le monde connaît In Paris.
Non, le cochon.
Non, In Paris.
Non, le cochon.
Le titre est en anglais, je ne peux pas le dire en français. Et donc, c'est la saison 5. Je vous en parle parce que la saison 5 vient de paraître et juste disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Il y a encore, c'est encore de l'anglais. Je vais me faire tirer les oreilles. Elle est disponible depuis le décembre dernier. Et c'est une série avec Lily Collins, qui est la fille du chanteur Phil Collins. Et en fait, c'est l'histoire d'Emily Cooper. C'est une jeune directrice marketing à Chicago. Elle est engagée dans une grande agence de marketing parisienne pour mettre sa perspective américaine au service des futurs clients français. Et si je vous en parle, c'est que cette série, elle a tout pour déplaire. Elle est mal jouée. Les personnages sont empruntés. Le scénario est grotesque, c'est politiquement correct jusqu'à la nausée. C'est une ode complète à la diversité en permanence. Il y a des personnages homosexuels absolument ridicules. C'est un pari de carte postale auquel on ne croit pas. Enfin bref, elle se balade dans des costumes de grands couturiers complètement là aussi ridicule, la pauvre Émilie. Mais voilà, elle est ravissante, la petite actrice. Elle est absolument charmante. L'atmosphère est aussi assez particulière. Et ce charme indéfinissable emporte un peu tout et ça rend cette série assez addictive. Ça fait penser un peu à Amélie Poulain, si vous voulez, avec une masse de politiquement
correct. Amélie Poulain, c'était pas pareil. Hein. Ça n'avait rien à voir. Parce que c'était fait en France, mais c'était Made in France, on y va pour le cochon. C'était pas la vision, je sais pas comment dire, que les Américains ont de Paris, des Français, etc.
Ouais,
c'est pas pareil. Hein.
Mais c'est un peu différent, mais quand même, il y a quand même un petit peu de ça dans le côté léché, un peu irréel, etc.
Mais passer au filtre woke.
Voilà, exactement, passer au filtre woke.
On sait maintenant comment Marc Baudrier perd son temps.
C'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, restons courtois du vendredi, c'est fini les amis, merci à tous, et ici, merci Jean-François Coulon-Desarts, Franck Herriot et Damien Chalamel, pendant que Damien Chalamel lit La Nouvelle Droite. Moi, je regarde Emily de Paris. Et merci à Jocelyn, à la technique. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux petites heures en votre compagnie, comme Boulevard Voltaire. Vous le savez, Radio Courtoisie reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie, aider Boulevard Voltaire dans le climat actuel, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 1er mai, même heure, même adresse, Restons Courtois, 17h30, 19h30, sur Radio Courtoisie avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Émission exceptionnelle la semaine prochaine, nous serons en compagnie de Joseph Touvenel pour le 1er mai. Nous parlerons notamment des jours fériés. Ne ratez pas ça, ça va être formidable. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.